ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même afin d'avoir ce qu'elle veut. Dans cet épisode, je reçois Julie Carbone, vice-présidente directrice média chez Starcom. En tant que vice-présidente, Julie gère le bureau de Starcom Montréal et a pour mission d'aider les entreprises à traverser des situations complexes, à stimuler leur croissance et à bâtir des marques exemplaires. Avec plus de 13 ans dans l'industrie média, Julie est reconnue pour sa pensée stratégique et sa capacité indéniable à tisser des liens de confiance avec les gens. Elle a remporté plus de 20 prix et distinctions, en plus d'être nommée dans le palmarès 30 Under 30 par le magazine InfoPresse en 2016. Son parcours professionnel a, dans sa grande majorité, été dans la gestion de marques mondiales telles que Lowe's, Danone, Nespresso et Red Bull. Engagée dans l'industrie tout comme dans les causes qui lui tiennent à cœur, Julie siège au sein du comité permanent des directeurs médias de l'A2C et au conseil d'administration de l'OSBL La Maison Bleue. De plus, elle a récemment lancé son propre balado No Ceilings, qui met en lumière des femmes audacieuses qui ont fait des progrès significatifs dans leur industrie respective. C'est pourquoi je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui Julie, puis j'espère que vous allez apprécier l'entrevue comme moi je l'ai fait. Bonne écoute! Donc, écoute, Julie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui à participer au podcast Ambitionnel.
Merci à toi. Je suis super excitée d'être ici.
Moi aussi. Mais écoute, entre podcast, sœur de podcast, oui, mettons, c'est ça. Peut-être ton podcast aussi. Est-ce que, écoute, pour lancer la balle, tu pourrais nous expliquer ton rôle en tant que vice-présidente média chez Starcom?
Oui. Dans le fond, en tant que rôle comme vice-présidente chez Starcom, je gère des clients et je gère une équipe. Donc, mon rôle, c'est vraiment de s'assurer de supporter les équipes, qu'il y ait toutes questions de besoin dans chacune des campagnes, des stratégies qu'ils mettent en place. Starcom, c'est une agence média, donc on fait des placements médias, des investissements médias pour nos clients. Évidemment, mon rôle a vraiment évolué à travers les années. Là, j'ai commencé comme assistante. Je faisais des Excel, puis je rencontrais des la presse, des journaux de Montréal pour voir un peu leurs coûts puis comment ça fonctionnait. Puis à travers les années, le rôle change. Puis là, c'est plus un rôle, je dirais, de management ou d'opération maintenant.
Puis tu parlais justement de relations publiques et médias. Est-ce qu'il y a une distinction entre les deux?
Oui. Dans le fond, les relations publiques, on dit, puis moi j'ai étudié aussi, j'ai fait un certificat à McGill en relations publiques, fait que c'est très drôle. Mais les relations publiques, ils disent PR, you pray for it, media, you pay for it. Fait que les RP, c'est vraiment tout le travail que tu fais avec des journalistes, de faire des communiqués de presse, de lancer des produits, etc. Le média, c'est vraiment la stratégie, comment on va cibler un auditoire, comment on va aller chercher tel consommateur qui peut être intéressé par nos produits. Puis on regarde vraiment tous les points de contact d'un point de vue média, que ça soit de l'imprimé, de la télé, du numérique. Fait que c'est ça qui est super fascinant de ma job ou de notre rôle en tant qu'agence média, c'est que c'est continuellement en évolution parce que dans le fond, c'est moi je me souviens en 2010 là, il y avait le iPad était comme la presse était là puis il parlait oui. Du iPad puis c'était comme revolutionary mais après ça a vraiment évolué, les TikTok n'existaient pas il y a 10 ans, les Instagram etc. Fait qu'on a comme un rôle de généraliste pour vraiment comprendre tous les points de contact puis comment on est capable de rejoindre un consommateur.
Mm-hmm. Puis moi, ce que j'aimerais savoir, en fait, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi le monde des communications comme emploi?
Bonne question. Dans le fond, juste pour te donner un peu de contexte, moi, quand j'étais petite, mon père était dans le domaine de la musique. Donc, j'étais beaucoup exposée à tout ce qui était campagne de publicité, des lancements de programmation, etc. Donc, j'ai toujours eu un petit goût pour la communication. Puis, je me suis dit aussi, à travers les années, quand j'ai étudié en business, qu'est-ce que j'aimais des communications, c'est que j'ai l'impression qu'on est comme aux premières loges des mouvements socioculturels, qu'on a un impact sur la société, qu'on peut faire changer des perspectives aussi aux gens dans un monde idéal. Mmh. Après, des fois aussi, on vend de la pub, puis on vend des T-shirts, etc. Mais j'étais un peu tombée là-dedans parce que je cherchais aussi je cherchais un stage quand j'ai gradué de Vanier. C'était un deck que j'avais fait en business. Puis, il y avait Cossette, dans le fond, qui oui. cherchait quelqu'un. Fait que j'ai fait un stage non rémunéré de 4 mois quand j'avais 19 ans. Puis, finalement, je suis restée en pub, je suis restée en communication depuis.
Mm-hmm. Puis, tu parlais des mouvements socioculturels que le monde des communications est tout le temps en très, très grand... Accord, si je peux
dire. Oui, je dirais, dans ma tête, je me disais, ah, peut-être c'est l'avant-plan, mais même pas, tu sais, je pense qu'on suit les mouvements.
Oui.
Des fois, c'est pas nécessairement... Tu sais, je pense dans ma tête, un exemple, le greenwashing, par exemple, il y a une couple d'années. Là, je pense que tout le monde est vraiment conscient de l'environnement puis de, ouais. des impacts que toutes nos, tu sais, toutes les efforts qu'on doit mettre de l'avant pour que le monde change d'un point de vue plus green. Mais, tu sais, on va dire 15 ans, la pub suivait où il y avait certains produits ou certaines marques qui essayaient de pousser des messages en lien avec l'environnement, mais c'était plus du greenwashing que genre d'être éco-responsable. Mmh. Mais sinon, le mouvement des femmes, je pense que c'est un exemple où est-ce que la publicité peut-être était au détriment des droits de la femme back in the day, là, peut-être dans les années oui. 50, où est-ce qu'on voyait la femme dans les images qui nettoyait les planchers, puis c'était tout le temps le rôle de la femme. Bien évidemment, à ce moment-là, la femme ne travaillait pas nécessairement. Puis là, je parle vraiment nous, au Canada et aux Absolument. États-Unis, là, je veux dire, différents contextes, différents pays, etc. Mais à travers les années, je pense qu'on met de l'avant des nouveaux messages pour qu'ils aident à émancipate mm-hmm. ou qui aide à promouvoir la femme et ses droits plus évolués en 2023, on espère.
Bien, c'est sûr. Puis, ouais. justement, tu parles du droit des femmes, qui est un sujet qui est très, très proche de moi et mes valeurs.
Moi aussi.
Est-ce qu'il y a une campagne qui t'a particulièrement marquée, justement, par rapport aux droits des femmes, sur laquelle tu as peut-être travaillé ou que tu as vu?
Ben, il y a une campagne que j'ai travaillée, puis après, il y a un autre exemple que j'aurais aimé ça travailler là-dessus, okay. mais ben, une campagne, c'était plus par rapport à tout ce qui était body positivity.
Mm-hmm.
J'ai travaillé sur le compte de Additionnel, je pense en 2014 ou 2015, okay. puis c'était au tout début du mouvement body positivity. On avait Ashley Graham qui était là, qui avait une collection avec Additionnel, puis c'était la première mannequin plus size, là, on n'appelle plus ça plus size, là. Mais back in the day, en 2014 ou 2015, c'était la première à faire le New York Fashion Week. Donc, j'ai fait partie de cette campagne-là. On faisait des Facebook Live quand genre, Facebook venait juste de commencer à faire des Facebook Live. Donc ça, c'était vraiment une belle campagne, plus par rapport au corps de la femme, puis d'arrêter de nous juger sur est-ce qu'on est trop petite, est-ce qu'on est trop grosse, etc. Fait que ça, c'est une chose. Ça, c'est une campagne. Puis j'étais bien fière de travailler avec cette équipe-là. Puis sinon, une autre campagne que j'ai beaucoup aimée, puis ça, c'est plus récemment, c'est la campagne de Bumble. Donc Bumble,
oui.
Moi, j'ai pas passé à travers les applications parce que je suis en couple depuis longtemps, mais Bumble, qui est, si je me trompe pas, c'est comme une application où est-ce que la femme doit répondre aux messages de l'homme en premier, là, je pense.
Elle écrit à l'homme en premier.
L'homme en premier. Puis dans le fond, la campagne... C'était une campagne d'affichage aux États-Unis, puis je pense qu'ils l'ont fait aussi au Canada, qui disait « Be the CEO your parents always wanted you to marry ». Dans le sens où comme ça mettait de l'avant vraiment le fait que tu peux être une femme accomplie, une femme d'affaires, col blanc, t'as pas à te sentir gênée, que t'es powerful, puis que t'as une grosse job.
Puis que tu fasses le premier move.
Exactement.
Fait.
Mm. Ouais.
Parce qu'on s'entend dans la société, moi j'ai été sur les dating apps aussi, comme beaucoup, beaucoup de gens de mon âge. Mais justement, Bumble, je trouvais ça intéressant parce que c'est la seule application, si je ne me trompe pas, à laisser la femme écrire à l'homme en premier.
C'est ça.
Puis en général, dans notre société, on voit beaucoup, beaucoup le fait que les hommes doivent tout le temps faire le premier mouvement.
Mm-hmm.
Si tu fais, admettons, si tu approches le gars en premier en tant que femme, ça veut peut-être dire que tu es trop... assertive,
mm-hmm.
ou c'est un peu mal vu.
Ouais.
Donc, Bumble en tant que telle, Whitney Wolfe.
Whitney Wolfe, oh my God.
Quelle femme inspirante.
Ouais, vraiment.
Puis, en tant que telle, ça, c'est celle où tu aurais voulu travailler sur cette campagne?
Ben, j'aimerais juste, tu sais, je trouve juste de travailler avec une Whitney Wolfe, je trouverais ça inspirant.
C'est ça, mais t'as pas fait la campagne en
tant que... Non, j'ai pas fait la campagne. Non. Non, Additionnel, oui, j'ai travaillé avec eux. Ouais, Bumble, pas du tout. C'est juste que j'admire ce genre de campagne.
C'est un vraiment beau message en tant que telle. Puis, je trouve qu'au fil des années aussi, il y a tellement de femmes qui aimeraient des CEO,
ouais.
mais au fil de l'histoire, on en a vu tellement peu.
Ouais,
puis auparavant, c'est comme... je fais tout le temps des liens avec mes autres entrevues, en fait. Mais j'en discutais avec Léa, qui était la planificatrice financière
ouais.
dans l'autre entrevue. Puis on s'est rappelé que les femmes n'avaient pas le droit d'avoir des comptes bancaires avant 1970 environ.
Ouais.
Donc, on s'entend, tu parlais aussi du fait qu'en 1950, dans les publicités, on voyait les femmes cirer le plancher à la maison, s'occuper des enfants, faire les bras, le petit bandeau sur le front. Puis le fait de voir toute l'évolution qu'on a eue depuis, puis aussi par le biais des communications, comment est-ce qu'on a revendiqué nos droits aussi avec toutes les publicités, la manière aussi dont les entreprises promouvoient aussi les femmes
mm-hmm.
qui
sont
des postes plus hauts. Exactement. Puis est-ce que toi, en tant que telle, en ce moment, tu es directrice média? si je ne me trompe pas, vice-présidente média chez Starcom.
Ouais.
Est-ce que tu as des plans pour l'avenir de monter dans la compagnie ou qu'est-ce qu'on peut s'attendre de ta part dans les prochaines années?
J'aimerais aussi spécifier aussi que ça dépend des industries,
okay.
qu'il y a une différence de compensation selon le sexe, parce que en communication, je dirais, je vais parler pour nous, chez Starcom et chez Publicis, on a égalisé les salaires par palier.
Okay.
Je sais que c'est comme obvious, là, mais avant, ça ne l'était pas.
Ben, c'est ça.
Donc, ça, c'est super intéressant. Fait qu'il ne devrait pas avoir j'ai le mot discrepancy, là, mais de différence au niveau de cette compensation-là. Ceci dit, moi aussi, j'avais fait la même étude. J'avais fait des recherches là-dessus, puis j'avais vu que, par exemple, dans le droit, dans les avocates font, je pense, c'est 50 ou 40, ou il faudrait ressortir la stat, là,
ouais.
mais c'était vraiment une grosse différence de salaire au niveau de la compensation pour un homme puis pour une femme avocate. Mm-hmm. C'était hallucinant. En communication, c'est moins comme ça, okay. ou même en médias, je dirais.
Mais justement, moi, ce que je me demande, puis la question que je me pose, c'est que, tu sais, on s'entend, moi, à mon âge, je fais pas un très gros salaire. Je faisais pas un très gros salaire parce que j'ai plus d'emploi. Mais le truc, c'est que je trouve qu'en tant que tel, quelque part, discuter des salaires, puis l'argent, c'est tellement un sujet tabou. Mais lorsqu'on est ouvert par rapport à discuter de notre
tellement.
Salaire et ceux des autres, c'est là qu'on va
tellement.
Régler le problème de, justement, la différence salariale qu'on observe.
Mm-hmm.
Puis je pense que ça a tellement été mal vu pendant des années de parler d'argent, de parler de ton salaire. Puis surtout, plus tu fais d'argent, j'ai l'impression... plus c'est gênant
tabou.
D'en parler,
mm-hmm.
c'est tabou, parce que les autres te regardent sont comme, comment est-ce que tu peux faire autant de salaire dans tel poste?
Ouais.
Ce que des fois, effectivement, c'est choquant à voir,
ouais.
mais la réalité est que, selon moi, plus on va parler des salaires et plus on va en discuter,
mm-hmm.
plus on va pouvoir réduire l'écart salarial.
Oui, définitivement.
Puis ça, est-ce que c'est une discussion que tu as en général avec tes collègues dans la compagnie, en général?
En toute franchise, non. On va dire avec mes pairs qui sont mm-hmm. au même niveau, non. Ceci dit, dans mon réseau d'amis ou de femmes avec qui j'ai commencé à travailler avec elles quand j'étais super jeune, tu sais, je veux dire, t'as vraiment un bon point parce que les salaires au tout début, tu sais, j'ai commencé, j'avais 19 ans, ça date d'il y a 13 ans, je faisais 27 000 $ et je travaillais 70 heures semaine. Mais en toute franchise, je veux dire, même looking back, c'était pas... j'étais fière, puis j'étais motivée, puis c'était... Je regardais pas l'argent. Mais je savais que, tu sais, un jour, ça va m'amener quelque part d'autre, puis c'est le cas, non, au moins. Mais je pense qu'il y a une transparence à avoir au niveau des salaires. Il y a beaucoup de gens en technologie, dans le monde de la tech, qui, comme les salaires sont ouverts même au niveau du recrutement, etc. Et c'est dit... Quand tu dis « Ah, c'est drôle parce que c'est comme un peu tabou de parler de l'argent, parler des salaires », moi, je trouve qu'il y a vraiment une énorme différence entre, je vais dire, le Québec, le Canada et les États-Unis.
Absolument.
Dans le sens où, comme le Québec, tu sais, je veux dire, c'est tabou de parler d'argent, c'est même juste de parler de finances. C'est ton autre invité que tu as eu, je suis sûre que juste d'être planificatrice, tu sais, il y a tellement d'éducation à faire auprès des gens et auprès des jeunes par rapport à comment... gérer tes finances, puis gérer ton salaire, puis c'est quoi ton plan ou ton objectif long terme. Mais aux États-Unis, c'est comme, I'm gonna show you my salary, puis c'est comme, it's not enough, puis je vais essayer de
American
négocier.
Dream.
American Dream. C'est vraiment the American Dream. Mais pour répondre à ta question, je parle pas de salaire nécessairement, puis peut-être je devrais, mais avec mes amis, tu sais, on a commencé un peu, mais en même temps, il y en a qui sont allés côté tech, côté client, etc. Fait que maintenant, on va dire, pendant des entrevues de job ou quoi que ce soit, on va dire « Hey, I'm off town, toi, qu'est-ce que t'en penses? » etc. Fait qu'on est super transparente. Puis, if anything, ça te donne un réseau de femmes inspirantes et de tu sais, ça nous challenge. Ouais, c'est
exact.
Ça, on s'encourage, exactement.
Puis, écoute, t'as amené un sujet qui est très intéressant que je trouve, la négociation de salaire.
Mm-hmm.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'en faire? Et si oui, est-ce que t'as des trucs à nous donner?
Oh my God, oui! Fait que dans le fond, puis là, je le vole, c'est pas moi qui ai inventé ça, là. Il faudrait que je sorte la stat exactement, mais il y a dans le fond, Lean In, qui est un organisme qui a été créé par Sheryl Sandberg.
Oui.
Il y a comme toute une section, je pense, de son site web qui est sur la négociation. Puis l'importance, surtout en tant que femme, de négocier, parce que dis-toi que si toi, tu négocies pas à chaque entrevue ou chaque rôle auquel tu veux travailler ou quoi que ce soit... Puis l'autre personne, que ce soit un homme ou que ce soit n'importe qui négocie en haut, je pense que le calcul, c'était sur 10 ans, il peut potentiellement avoir 50 à même 100 000 $ de plus que toi, dépendamment de l'industrie, du rôle, etc.
Mais c'est énorme.
Puis moi, ça m'était vraiment resté. Puis moi, je dis toujours, do your homework. Tu sais, si t'es en train, si tu veux un nouveau rôle, même à l'interne, puis je le dis même à mes propres équipes, de comme, arrive préparé. Montre-moi le nombre d'heures que t'as travaillé sur tel projet, comment t'as contribué à la business, quel genre de client que t'as amené. Puis toi, fais-toi ton exercice du montant que t'aimerais avoir. Après, on va regarder qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui est dans les benchmarks, etc. Mais moi, je encourage tout le monde à négocier, et même mes propres équipes, je veux qu'ils me négocient, puis je veux qu'ils me challengent, parce que ça me démontre qu'ils ont une drive puis qu'ils prennent à cœur le travail qu'ils font. Fait que je pense que c'est ultra important. Puis, tu sais, il y a une statistique aussi par rapport aux femmes qui cherchent un nouvel emploi. Mm-hmm. Un homme, je pense, c'est que s'il qualifie pour 40 % ou 50 % des critères ou le skill set qui est sur le résumé, va quand même postuler pour le rôle. Mais la femme va, elle attend à avoir 90 ou même 95 mm-hmm. des compétences qu'il demande sur le on va dire le job desk ou le rôle précis. Puis ça démontre juste à quel point les femmes, c'est comme si on a une genre d'insécurité de, on n'est pas prête à postuler, même si il faut qu'on soit parfaite. Puis oh non, on va pas négocier. Non, il faut qu'on change ce paradigme-là, il faut qu'on change ce mindset-là. Fait que oui, la négociation, c'est super important. Puis je pense, moi, le truc, c'est juste, tu sais, prépare-toi. Puis dis-toi à l'inverse, si moi, il y a quelqu'un qui me demandait plus d'argent, quel genre d'informations que j'aimerais recevoir de leur part? Hein?
Mm-hmm. Avoir des points béton, dans le fond, pour faire notre argument.
Définitivement, oui. Pas juste comme, ben, je vaux plus, mais oui.
Tu veux plus, mais pourquoi?
C'est ça, oui.
Quelle est ta valeur, ta plus value, comme ouais. on dit? Fait que oui, effectivement, c'est se préparer. Puis aussi, en tant que tel, tu sais, moi, mettons, dans les premiers emplois, parce que dès qu'on sort de l'université, souvent, on va appliquer pour des emplois, mais faire des recherches aussi sur le milieu.
Oui,
en général, ça aide. Surtout lorsqu'on commence, tu sais, t'as pas beaucoup ouais. d'expérience. Mais des fois, j'ai des amis qui me disaient qu'ils avaient appliqué comme coordonnatrice marketing. Mm-hmm. Puis je pense qu'elle se faisait offrir 35 000.
Ouais.
Puis elle sortait de l'université, puis elle était payée peut-être 50 000 en ce moment. Puis en même temps, le truc, c'est que est-ce que l'entreprise voit la valeur? Est-ce que le salaire est une représentation de la valeur que le poste amène à l'entreprise? Ouais, puis 35 000, ça avait l'air quand même bas
ouais.
pour la moyenne des salaires qu'on avait en ce moment. Donc...
Mais je challengerais cette notion-là, évidemment, mm-hmm. moi qui faisais 27 000 à travailler beaucoup, beaucoup d'heures. C'est sûr que j'ai ce biais-là, mais des fois aussi, c'est l'expérience que tu vas mm-hmm. aller chercher. T'sais, je veux dire, je repense à mon temps quand j'ai commencé chez Cossette, puis je travaillais sur les plus grosses marques, des gros pitchs avec des énormes budgets. J'avais accès aussi à de la technologie puis des partenariats que... J'aurais pu travailler, on va dire, je sais pas, pour une grande entreprise, j'aurais fait peut-être 30 000 $ de plus, qui est mm-hmm. énorme là, à ce stade-là.
Ben, surtout à l'époque aussi.
Surtout à l'époque, mais j'aurais peut-être pas grandi ou avoir eu des expériences.
Ouais.
Il faut que ça soit, je pense que c'est la CEO de Netflix qui avait dit « You need to give your staff resume-worthy experiences ».
J'aime ça.
Puis c'est vraiment ça, tu sais, c'est comme comment mon emploi en ce moment peut me donner des expériences qui vont bénéficier mon prochain rôle. C'est mm-hmm. tout le temps comment je suis capable de grandir là-dedans. Puis oui, l'argent, c'est important, puis je comprends, il y a plein de gens qui peuvent dire « Ouais, mais tu sais, moi, j'ai comme un loyer à payer, fait que t'es bien drôle, toi, de... Tu sais, comme tu vas être payé 15 000 de moins, mais après, sur le long terme, tu sais, ça dépend c'est quoi ta vision mm-hmm. long terme, puis ça dépend où tu veux être. Mais surtout en communication puis en marketing, c'est sûr que les agences... Là, on a quand même évolué, mais on est moins payé nécessaire que les clients, des fois. Ou...
Ouais.
Mais les rôles peuvent évoluer beaucoup plus vite, puis on peut avoir accès à des expériences de feu. Là.
Mm. Puis tu parlais aussi, justement, des femmes qui sont moins enclintes à appliquer pour un emploi. Mm-hmm. Puis on attend toujours d'avoir 90-95 % des critères,
ouais.
tandis qu'un homme va avoir 40 % Puis ce qui est drôle, c'est que lorsque j'enregistrais mon épisode sur le syndrome de l'imposteur, mm-hmm. j'étais tombée sur une statistique aussi qui disait sensiblement la même chose. Puis, en fait, c'est que les femmes, on se remet beaucoup en question.
Définitivement.
Puis par rapport à nos compétences. Tandis mm-hmm. qu'un homme va beaucoup moins penser, il va être comme, je vais appliquer, si je l'ai, tant mieux.
Ouais, c'est
si
ça.
Je l'ai pas, ben écoute, j'aurais essayé, puis si on passe à autre chose. T'sais, une femme,
on c'est la
comme,
bonne façon. Hein?
C'est ça. Puis ouais. en tant que femme, souvent, on va se dire, comment non, mais comme... « Je suis pas assez bonne pour faire ça » ou « J'ai pas assez les compétences, mmh, je vais pas appliquer par peur de me faire rejeter. » Puis je trouve ça tellement plate parce qu'en même temps, c'est inculqué dans notre société, j'ai l'impression. qu'en tant que femme, surtout, t'as tellement besoin de plus te prouver des fois pour avoir un certain poste.
Ouais.
J'ai l'impression que ça a beaucoup joué sur notre estime pour appliquer pour un certain poste.
Je pense que oui, puis je pense aussi que ça part de l'enfance. Là,
exact.
Puis là, je vais pas faire...
Freud.
Oui, c'est ça, mais je veux dire, c'est sûr que les petites filles de comme... T'sais, de tout le temps, est-ce que t'es belle, est-ce que t'es... De juste tout ce focus sur notre poids, puis sur qu'est-ce qu'on a de l'air, versus un petit garçon, je veux dire, on le sait, c'est... Après, ils ont d'autres problèmes aussi. Là,
absolument, la santé mentale aussi, tout c'est ça, important
exactement,
pour les hommes.
Exactement, mais non, je pense que l'estime de soi, c'est hallucinant à quel point ça a un impact. Puis moi, je le vois même dans des équipes que je dirige, il y a certaines personnes, il y a certaines femmes qui étaient comme... Si elle avait juste plus d'estime d'elle-même, comme sky's the limit for her. Tu sais, c'est comme. Puis c'est vraiment dommage parce que la fille est brillante, mais elle n'est pas capable. Puis elle me dit, oh non, mais I'm not that good. I'm not that. Like, je suis comme, non. Comme, faut que tu dois croire en toi-même. Puis je sais que c'est cheesy, là, mais.
Ben, c'est vrai.
Ça revient à l'estime, là, ça revient à l'amour pour soi. Là.
Ben, c'est ça. Puis je veux dire, c'est ce qui est encore drôle parce que j'en parlais avec Kim aussi, qui était montré plus de ce matin. Mais, tu sais, je veux dire, moi, dans la vie, je suis la plus grande avocate pour le développement personnel.
Ouais, définitivement.
Comme je veux dire. J'en ai parlé aussi, mais quand j'étais plus jeune, justement, j'avais aucune estime de moi-même. Je me trouvais pas, je me trouvais laide, comme je m'aimais pas réellement, puis j'avais pas confiance en mes capacités non plus. Puis une fois que j'ai fait justement le travail sur moi-même, d'accepter mes forces et mes points d'amélioration, c'est là que j'ai vraiment compris mes valeurs, où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas.
Ouais.
Puis à partir de ce moment-là, j'ai tellement développé ma confiance en moi-même, et je veux dire, c'est révolutionnaire. Comme quand t'as confiance en toi, tu peux passer par-dessus tes peurs, puis tu sais que t'es plus forte, puis quelque chose de plus grand derrière. Mais faire ce travail-là sur soi-même, c'est constant. Puis j'ai l'impression qu'en tant que femme, on nous apprend à pas le faire aussi. Parce qu'on se compare tellement dans la société.
Puis je pense que c'est vraiment important de bien s'entourer de femmes qui tu sais, moi, je dis tout le temps, je veux tout le temps être entourée de gens qui vont m'aspirer vers le haut. Tu sais, c'est d'être avec des Debbie Downers là, qui vont tout le temps se plaindre de n'importe quoi ou qui vont juger ou qui vont se comparer à tout. Tu sais, c'est là que c'est problématique puis ça va juste pas t'aider. Fait que ton cercle est tellement important. Puis, je veux dire, il y a plein de podcasts puis il y a plein de livres là-dessus de « You are the five people you're closest to ».
C'est ce que j'ai comme, tout le temps.
C'est très vrai puis j'y crois. Puis, tu sais, je pense qu'il y a un réseau, ton cercle alentour de toi est super important, mais même avoir comme un champion ou que ce soit ta meilleure amie, ta sœur, ton frère, ton chum, quelqu'un qui te pousse puis qui te lâche pas quand t'es down, c'est vraiment, vraiment important aussi.
Ben c'est ça. Puis toi, est-ce qu'il y a une personne comme ça dans ton entourage ou des personnes, justement, qui t'encouragent à être la meilleure version de toi-même à chaque jour?
Ouais, je dirais que j'ai vraiment un beau cercle d'amis, des femmes inspirantes, comme je disais. Là, on a comme notre group chat où est-ce qu'on se partage... nos plus grosses peines de vie, mais aussi des articles ou comme comment des situations de job aussi, fait qu'il y a ça. Mais sinon, je veux dire, mon mari, s'il a été là, ça fait 13 ans qu'on est ensemble, puis je dirais qu'on est les champions de l'un et l'autre, fait que c'est les champions. Les champions, ça se dit pas drôle. Mais je dirais...
Power couple.
Oui, ben je sais pas, mais lui, je veux dire, il a parti son entreprise, fait que je l'ai vu aussi travailler très fort, puis on s'est rencontrés en chez Cossette. C'est ça, on s'est suivis à travers, mais je pense que c'est super important d'avoir quelqu'un qui te pousse constamment puis qui te fait pas redouter, qui te fait pas douter de tes capacités ou tes capacités,
Ouais. Puis en tant que telle, est-ce que dans ton parcours, admettons, tu as eu certaines difficultés pour te rendre où est-ce que tu es aujourd'hui? J'imagine que oui. Mais si tu peux nous les partager pour nous dire peut-être comment est-ce que tu es passée par-dessus ces difficultés-là?
Ouais, ben je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est tout le monde va te le dire, là. Puis le fait que j'ai commencé très jeune... Tu sais, par exemple, j'avais 25 ans, puis je gérais déjà 6 personnes, puis je trouvais ça difficile à certains moments, puis j'avais pas nécessairement de repères, puis je sais qu'on en a pas parlé tant que ça, mais moi, l'école, ça l'a toujours été comme ma béquille, dans le sens où j'ai pas de bac. Puis j'ai fait un DEC au cégep.
Oui.
J'ai fait mon stage chez Cossette. Puis au lieu d'aller à JMSB, au lieu d'aller à Concordia, j'ai décidé de travailler temps plein. Puis
félicitations.
Merci. Puis le soir, je faisais un certificat en relations publiques à McGill. Fait que pendant 3 ans, j'ai fait ça. Puis par la suite, j'ai juste continué à monter les échelons, genre à travers les années, à travers les différentes agences. Finalement, mon employeur, il y a 2-3 ans, me payer un mini MBA par la suite parce que j'avais assez d'années d'expérience. Fait que ça, c'était super. Puis honnêtement, les choses passent bien depuis. Mais je veux dire, je pense que pendant beaucoup d'années, j'étais vraiment insécure parce que j'avais pas ce bac-là. Puis là, j'engageais des jeunes qui avaient un bac.
Ouais.
Puis en bout de ligne, je veux dire, maintenant, ça change plus grand-chose dans ma vie. Puis j'ai passé à travers, ou tu sais, mais je gérais des gens qui étaient plus vieux que moi, qui avaient différents bagages, etc. Puis encore là, je parlais avec mes amis, on disait, j'avais une amie qui, elle gérait des ingénieurs, mais elle n'était pas ingénieure, fait que c'était super stressant. Fait que on se partageait ça souvent, puis à travers les années, j'ai juste réalisé, tu sais, je suis où est-ce que je suis parce que j'ai les compétences pour y atteindre ou pour faire la job ou le rôle, etc. Mais c'est aussi de juste miser sur mes forces. Puis je pense à travers le temps, à travers le temps, j'avais tout le temps l'impression qu'il fallait que je travaille doublement plus fort que les autres.
Mm-hmm.
Puis en toute franchise, j'ai travaillé doublement plus fort que les autres.
Sûr.
Mais ça m'a amené où est-ce que je suis. Puis je regrette rien du parcours. Puis ça se trouve, étant donné que j'avais comme ça, je sais pas si c'était le syndrome de l'imposteur ou cette peur ou de surtout en tant que gestionnaire, début, là maintenant, c'est, je veux dire, tu sais, j'ai une équipe de 30-40 personnes. Là, fait
quand
que
même,
c'est comme,
il y a une belle amélioration.
C'est ça, fait que là, j'ai comme, j'ai saisi comment ça fonctionne. Oui. Mais à travers le temps, je pense, ce stress-là ou cette peur-là m'a juste poussée à travailler plus fort. Fait que c'était pas, je le regrette pas non plus, puis je changerais rien de ce parcours-là.
Mais ça fait partie de ta personne en même temps, puis ça a forgé le caractère que tu as aujourd'hui.
Oui, exactement.
Puis je trouve ça drôle que tu en parles parce qu'en tant que telle, moi, mes parents, ils ont pas fait d'université non plus, puis ils ont super bien réussi.
Okay.
Donc, moi, en tant que telle, j'ai eu la chance de jamais avoir vraiment cette pression-là.
Mmh.
Mes parents voulaient que j'aille à l'université. Naturellement, c'était super important. Ils ont beaucoup investi dans mon éducation, puis je trouvais ça important aussi pour moi-même.
Oh oui, ça l'est. Puis, c'est super important, là.
C'est
everyone.
Ça, la gang, l'école, c'est la toujours gang, un safe bet, c'est toujours un investissement, c'est jamais
important.
Une dépense.
Oui.
Exactement. Moi, c'est ça, je dis toujours. Mais je crois aussi que si l'école est difficile pour toi, que t'as des difficultés académiques, admettons, tu sais, t'as de la dyslexie ou des trucs comme ça, puis le système n'est pas bâti sur mesure. Le système est très, très carré de nos jours de l'université, puis je trouve ça plate.
Ouais.
Parce que c'est pas fait pour tout le monde, puis ça permet pas à chaque individu de thrive. Puis il y a surtout un type d'intelligence qui est mis de l'avant, puis c'est l'intelligence mentale classique, qui est super importante, mais c'est très, très carré, un seul type.
Mm-hmm.
Donc, en tant que tel, tu sais, moi, j'ai jamais vraiment juger les gens par leur éducation, c'est vraiment important. Mais moi, j'ai toujours eu des modèles qui ont très bien réussi sans.
Ouais.
Donc, pour moi, si t'as la drive d'aller apprendre, de toujours t'éduquer, puis d'aller chercher, d'être une go-getter ou un go-getter, peu importe, tu peux tout faire.
Comme oui, définitivement.
J'ai l'impression que l'université et le diplôme facilitent ton entrée sur le marché du travail, puis t'auras moins à te prouver que quelqu'un qui a pas ce papier-là. Puis c'est ça, je trouve plate en tant que telle dans certaines compétences. C'est normal, mais en tant que telle, pour des gens comme toi qui ont très, très bien réussi, qui ont dû mettre les bouchées doubles, je suis comme... clairement, t'es compétente, t'as super bien réussi, c'est hyper inspirant.
Ben, merci.
Mais c'était quoi comme peur, en fait, que t'avais par rapport à pas avoir de diplôme puis embaucher d'autres personnes qui en ont?
Ben, c'était est-ce que je suis qualifiée pour gérer ces gens qui ont une maîtrise ou quoi que ce soit? Puis finalement, la réponse, c'est oui, parce que j'ai le mot skill set, là, mais
moi aussi, j'ai skill set.
Ou j'ai abilities.
Compétences?
Il y a différentes compétences ou différentes facettes d'être un bon gestionnaire, une bonne gestionnaire. Donc, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, je travaille toujours sur mes forces, puis j'essaie aussi de m'entourer de gens dans mon équipe qui ont des forces que j'ai pas. Fait que je pense que c'est ça aussi qui m'a aidée à travers le temps. Ça change rien que la personne a 10 ans de plus vieux que moi ou qu'elle a une maîtrise en géométrie ou je dis n'importe quoi. En bout de ligne, si moi, ma faiblesse, c'est, je sais pas, la comptabilité ou quoi que ce soit, ben là, je me trouve quelqu'un qui est super fort là-dedans, puis on s'entoure, puis on travaille vraiment bien ensemble, puis c'est vraiment d'avoir une complémentarité dans l'équipe qui est vraiment importante.
Ben oui. Puis en tant que telle, vu que tu as été gestionnaire, j'imagine que des fois, t'as dealé, si je peux dire, avec des personnalités plus difficiles ou qui fonctionnaient pas nécessairement avec la tienne.
Oui.
Moi, c'est quelque chose, des fois, que j'ai de la difficulté à faire parce que quand t'es dans une position où tu dois être avec beaucoup de gens, puis que tu dois prendre des décisions, des fois, c'est pas toujours facile d'être avec les gens. Donc, comment est-ce que toi, tu gères ça, ces situations-là?
Bien, j'ai eu beaucoup... Moi, qu'est-ce qui a été le plus difficile, c'est des gens qui ont une mauvaise attitude ou qui n'ont pas d'éthique de travail. C'est vraiment les deux choses les plus difficiles. Ouais. Habituellement, quand t'engages ou quand t'as le luxe de pouvoir engager ta propre équipe, souvent, tu trompes pas puis t'engages pas des gens qui ont ce bagage-là. Mais en même temps, des fois, ça peut sortir de n'importe où ou t'as quelqu'un qui était pas engagé qui est dans ton équipe. Bref, je pense que pour moi, la mauvaise attitude, je pense que c'est la pire chose. Mais j'ai toujours essayé, malgré tout, d'essayer de trouver qu'est-ce qui est drive, qu'est-ce qui les stimule à travailler plus ou peut-être travailler moins, mais qu'est-ce qui les stimule dans leur quotidien, parce que c'est sûr qu'il y a une partie de l'emploi qui les excite, fait que c'était d'essayer de trouver cette partie-là, puis de vraiment mettre ça de l'avant à chaque fois. C'est arrivé, par contre, il y a des moments que ça marchait juste pas. Fait que là, c'est comme la relation, elle arrêtait là. Puis surtout, nous, qu'est-ce qui est spécial, qu'est-ce qui est spécial en communication, c'est qu'on, oui, on gère toute notre équipe à l'interne, mais on a des clients auxquels on doit vraiment subvenir à leurs besoins, là, si je peux dire, ou présenter des présentations, avoir des stratégies innovantes. Fait que c'est sûr que si la personne n'est pas motivée à l'interne, elle va pas plus l'être devant des clients.
C'est difficile.
Fait que c'est difficile. Mais ouais, je pense que c'est de trouver un peu le qu'est-ce qui les motive de l'emploi, puis d'essayer de travailler là-dessus, puis après d'avoir des conversations ultra franches. T'sais, je veux dire, j'ai eu des moments avec des gens que je me disais « voici mes attentes ». T'es là. Moi, je te veux là. Si t'es pas capable de tu sais, si c'est un emploi, là, c'est une job. If you can't do the job, ça va arrêter là. Là,
oui.
C'est d'être super clair sur les attentes dès le premier jour pour qu'il n'y ait pas de petites surprises à travers. Mais c'est la beauté de gérer des gens. Là. Tu peux avoir quelqu'un qui est super, qui est un génie, mais qui est ultra émotif ou qui est comme. Tu sais, c'est difficile à gérer. Ou tu peux avoir quelqu'un qui a un air bête, mais qui est aussi super intelligent. C'est tough, mais après, ça fait la beauté de la chose de gérer des gens.
Ben c'est ça. Puis justement, tu parlais des campagnes que tu as faites.
Oui.
Puis moi, ce que je me demande aussi, là, on va plus retourner dans ton rôle en tant que directrice média. Ouais. Mais lorsque tu crées une campagne, c'est quoi un peu l'impact que tu cherches à avoir auprès de ton public cible?
Oui. L'impact, évidemment, on veut avoir un impact positif, je pense.
Exact.
Point. Mais je pense que ça dépend aussi par rapport à... T'sais, si mon client, si notre client, c'est un OSBL, ben dans ce cas-là, l'impact, c'est de sensibiliser les gens par rapport à cet OSBL-là ou éventuellement avoir plus de dons, etc. Si c'est un client en commerce du détail, par exemple, ben là, ça va être de peut-être augmenter les ventes. Et ou, on va dire, un client en tourisme, ben c'est d'augmenter le nombre de nuitées. Fait que l'objectif ou l'impact change dépendamment du client, dépendamment du brief qu'on reçoit. Mais bien évidemment, on veut avoir un impact. Je pense que c'est une step one.
Naturellement. Ouais. Puis tu parlais d'OSBL, j'ai vu que tu étais sur le conseil d'administration de la Maison Bleue.
Oui, exactement.
Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de la Maison Bleue, sa mission, puis tout ce que ça englobe?
Définitivement. La Maison Bleue, ça a un sweet spot dans mon cœur. Ça fait 8 ans que je suis sur le conseil d'administration.
Wow.
J'avais 24 ans quand j'ai embarqué sur le CA. Dans le fond, la Maison Bleue, c'est un OSBL qui est un service de périnatalité sociale qui aide les femmes ou les familles enceintes ultra vulnérables. Donc, comment ça fonctionne, c'est qu'on a 4 maisons à Montréal et on va en avoir une autre, une 5e l'année prochaine. Il y a une maison à Verdun, Parc Extension, Côte des Neiges et Saint-Michel. Puis c'est littéralement des vraies maisons. Où est-ce qu'il y a le médecin, la sage-femme, le psychologue et la psycho-éducatrice qui travaillent sur le même dossier.
OK.
Fait qu'imagine si toi, ton psychologue parlait à ton médecin, parlait à ta psychoéducatrice, puis il suivait tout le dossier. C'est un service ultra personnalisé pour des femmes qui soit vivent de la toxicomanie, de la violence conjugale, qui sont soit demandeurs d'asile, immigrants. Je veux dire, il y a des cas atroces de personnes, malheureusement, ou de femmes qui arrivent là. Puis surtout... en tant que femme enceinte qui arrive là, sont super... T'es encore plus vulnérable que quand tu l'étais pas, là, quand t'étais pas enceinte. Donc, la Maison Bleue, c'est génial. Puis je les ai rencontrés il y a à peu près, c'est ça, à peu près 8 ans. Par chance, je travaillais évidemment en médias. Puis je cherchais une campagne pro bono pour essayer d'aller chercher des dons. Puis mon mari, qui était mon chum à l'époque, qui était rédacteur en agence, on a fait une petite campagne ensemble. Puis par la suite, mon rôle a évolué à travers le temps sur le CA. Mais non, c'est génial. Guylaine Tremblay, c'est notre porte-parole.
Wow!
Oui. Fait que non, c'est un organisme qui continue à grandir. Là. On a hâte de... Malheureusement, quand on grandit, ça veut dire qu'il y a encore plus un besoin, mais... Ouais. Mais c'est juste à chaque fois que je sors de ces réunions-là, t'es comme, ces gens-là, ils changent vraiment des vies, puis c'est beau à voir, puis d'être capable de contribuer, même si c'est juste 1 % de mon temps ou 10 % de mon temps, c'est quelque chose qui me rend ultra fière.
Ben oui, c'est sûr. Puis est-ce que tu as un rôle spécifique au sein du CA ou c'est plus général?
Oui, je suis au niveau des communications, donc okay. J'aide, parce que le CA est rempli de médecins, d'avocats, il y a même une sage-femme, tu sais, c'est vraiment c'est ultra différent de comme mon rôle dans le day-to-day. Fait que c'est plus un rôle de com, chaque fois qu'il y a un message, soit d'un point de vue PR, soit on refait le site web, etc. Puis maintenant aussi, j'ai un autre volet qui est tout le financement. Donc, j'aide le comité de financement. On va avoir notre première campagne de dons majeurs qui va être lancée, je pense, l'année prochaine. Okay. Donc, on travaille sur le cabinet de financement pour aller chercher des dons, soit des dons corpaux, des dons individuels ou même des dons au niveau du ministère de la Santé. Donc, honnêtement, ça m'ouvre vraiment tout un autre porte. Fait que c'est super intéressant, puis j'adore ça.
Bien, c'est sûr. Mm-hmm. Puis en tant que telle, moi, dans la vie, ce que j'aime beaucoup demander, c'est si tu as une mission globale qui te drive à chaque jour, puis comment est-ce que ça se lie justement avec tout ce que tu fais dans ta vie?
Ben, je dirais, j'ai toujours dit, tu sais, il y a un livre, je pense, c'est The 8 Habits of Highly Effective People. Oui. Puis il
parle. 7 Habits, je pense.
7 Habits, ouais, j'en ai ajouté un autre. 7 Habits, puis il parle aussi de comme ton mission board, je pense, ou ça fait vraiment longtemps que je l'ai lu, mais je me souviens que c'était comme What's your mission statement as a person? Ouais. Puis moi, c'était juste comme je veux avoir un impact positif sur les gens que je rencontre ou sur la société, etc., que ça soit par juste mon équipe avec qui je travaille ou le fait que j'ai lancé un podcast ou avec la Maison Bleue. Puis la Maison Bleue, je l'avais mis une fois dans mes objectifs de vie, là, de comme travailler avec comme un organisme ou quelque chose qui est plus en lien avec les femmes, puis c'est arrivé. Fait que je dirais que d'avoir un impact positif via, on va dire, la Maison Bleue, etc., je pense que ça l'aide à avoir ce but-là ou se pousser mon...
Ben oui. Puis est-ce que tu penses que ta créativité est un peu puisée, justement, de cette mission-là, parmi les contrats que tu prends avec les OSBL et tout ça?
Si ma créativité est...
Est un peu puisée dans ta mission lorsque tu fais, admettons, un contrat ou quoi
que
ce soit.
Oui, définitivement. Oui, je pense que je suis comme... Ça travaille ma curiosité, ça m'aide à juste voir voir différents genres de... ou rencontrer différents genres de personnes, de regarder d'autres genres d'industries. Non, c'est super motivant.
Puis en tant que telle, justement, est-ce que... Peut-être plus généralement parlant, la créativité, est-ce que t'en prends partout, un peu tout le temps?
Ouais.
Comment est-ce que ça fonctionne pour toi? Comment est-ce que ça développe? Parce qu'il y a des gens peut-être qui se demandent, tu sais, admettons, ils ont l'impression d'avoir un cerveau qui est très, très logique, puis qui cherchent un peu à développer cette créativité-là. Est-ce que t'as des trucs?
Ouais, ben je dirais, j'ai pensé à cette question-là. J'étais comme, c'est quoi mes trucs? Mais... Dans le fond, pour moi, la créativité, c'est un mélange de comme curiosité et d'inspiration.
Okay.
Je pense que je vois ça sur comme deux niveaux. Je pense qu'il faut que tu continues à t'informer au jour le jour, que ça soit de la lecture en ligne. C'est surtout avec le web, on a comme accès à 1 million d'informations. Surtout, on va dire, en publicité. En général, tu sais, il y a Ads of the World, on peut voir tout ce qui a gagné à Cannes, l'innovation qui a été faite dans les concours. On a beaucoup de concours en publicité. Oui. J'ai fait partie des jurys, etc., il y a 2 ans. Fait que, tu sais, juste d'être inspirée par les nouvelles idées, les différents genres de campagnes, de continuer à lire aussi sur le sujet ou sur d'autres sujets. Fait que je pense que ça, c'est le volet de s'informer. Puis après, le deuxième volet, ça serait peut-être plus la collaboration en tant que de rencontrer des gens ultra pertinents qui ont solutionné des gros problèmes, que ça soit en publicité, que ça soit en technologie ou quoi que ce soit, tu sais, de vraiment s'entourer ou peut-être pas nécessairement s'entourer, mais juste de rencontrer les gens. Je pense que tu le fais aussi avec ton podcast. Puis c'est ça aussi qui m'a amené, moi, à partir d'un podcast pendant la pandémie. C'est comme comment je peux continuer à développer ma créativité, d'apprendre à faire du montage, d'apprendre, tu sais, comme juste de
développer
un nouveau skill set. Puis c'est de continuellement se pousser à... Là, il faut que tu sortes de ta zone de confort, là, si tu veux vraiment être créatif.
Mm-hmm.
Puis de rencontrer des gens qui ont vraiment un bagage complètement différent de la tienne, qui peut vraiment pousser ta créativité.
Oui, je suis totalement d'accord. Moi, j'ai commencé le podcast en mars 2023
okay.
pour la Journée internationale du droit des femmes, en fait.
Génial.
Puis je sais qu'à l'époque, j'étais dans Femmes en affaires et les filles t'avaient interviewé.
Oui.
Puis, en fait, c'est le comité qui m'a allumée, si je peux dire, sur le fait que quand je rencontrais des femmes inspirantes, qu'on avait des panels ou quoi que ce soit, c'était là que je me sentais vraiment moi-même. Je me sentais, justement, après ça, j'avais l'impression « the world is your oyster », comme
oui,
on dit.
Vraiment,
comme tu
oui.
peux faire n'importe quoi, ces femmes-là, t'es voix aller, puis « a win for you is a win for us all ».
Tellement,
t'sais.
Oui.
Fait que c'est surtout pour ça que j'ai commencé le podcast, parce que moi, je fais des entrevues, puis j'ai des épisodes de solo aussi.
Ouais.
Mais chaque fois que je sors d'une conversation avec l'une des femmes que j'interview, sincèrement, il n'y a pas de mots pour expliquer le sentiment que j'ai.
C'est comme un high d'inspiration.
Ça, exactement. Puis c'est étrange à dire parce que des fois, t'es comment? Ben, une conversation, ça peut-tu vraiment spark ta créativité? Mais tellement.
Oui, vraiment.
Comme
oui.
j'en sors, je suis comme, je peux atteindre n'importe quoi dans ma vie. Comme, tu sais, on se partage l'énergie en tant que telle.
Oui, oui.
Fait que je trouve ça vraiment, vraiment le fun en tant que telle. Puis même toi, avec ton podcast, si jamais tu veux nous en dire plus sur le but, qu'est-ce que tu fais dans ton podcast, No Ceilings.
Oui, exactement. Ben, j'ai parti No Ceilings. C'est un podcast plus anglophone.
Mm-hmm.
Ben, dans le fond, c'est uniquement en anglais. mais dans le fond, je rencontre des femmes audacieuses qui ont vraiment, c'est ça, là, franchi ou on fait des progrès significatifs dans leur industrie respective qui ont brisé le plafond de verre. No ceilings.
I like it, smart.
Donc, je rencontre différents genres de types de femmes de différentes industries, que ce soit au niveau de la santé, au niveau marketing, des gens en beauté aussi. Vraiment, c'est vraiment vaste. Ma dernière invitée, c'était Karina Kogan, qui a été la CMO de Peloton et de Oura Ring.
Oui.
Et puis là, maintenant, elle travaille chez Pivolve, qui est comme une entreprise qui a fait un partenariat avec Jennifer Aniston. Fait que, c'était un genre de projet chouchou que j'ai fait pendant la pandémie parce qu'on était encabanés chez nous, confinés avec un curfew de 8 heures.
Il faut pas
se ramener là. Mais c'est ça, ça m'a permis de rencontrer plein de gens, puis je continue. Puis comme toi, je trouve ça super inspirant. Puis ça m'aide avec ma créativité aussi de comprendre les behind the scenes de certaines campagnes ou quoi que ce soit. Je pense que c'est super intéressant.
Ben oui, puis est-ce qu'il y a certaines entrevues que tu as faites qui se sont transformées, admettons, en plus que juste une simple rencontre, que tu t'es mis à travailler avec?
Ben, il y a certaines personnes, par contre, que je connaissais déjà.
Okay.
On va dire Chris Bergeron ou Mai Duong, on a travaillé ensemble auparavant. Mais c'est plus que ça l'ouvre d'autres portes parce que j'ai quand même un auditoire américain.
Okay.
Donc, il y a à peu près 60% de l'auditoire qui vient du US.
Ah, c'est intéressant.
Oui, c'est vraiment intéressant. Plus New York, LA. Fait que c'est super cool. Mais non, c'est plutôt qu'ils vont ouvrir d'autres portes dans le même genre de domaine. Tu sais, j'ai passé en entrevue la Chief Impact Officer de Ritual, qui est les vitamines. C'est comme des vitamines, dans le fond, ultra transparentes, dans le sens qu'ils sont transparentes, mais ils sont aussi tout le modèle de tout ce qui est vitamines et produits naturels, etc. Okay. Et ils ont tout décortiqué ça puis démocratisé ça. Fait que, tu sais, c'est juste différent. Puis elle m'a ouvert une porte sur... elle m'a ouvert, dans le fond, une introduction à The Honest Company, qui est l'entreprise de Jessica Alba aussi.
Ah, OK.
Donc, tu sais, c'est comme... C'est plus du networking que des relations d'affaires, mais qui sait?
Peut-être un jour.
Mon objectif ultime, ça serait de faire des genres de mini TED Talks, un peu genre No Ceilings Academy. Là.
Oh,
mais
j'adore.
À suivre, peut-être tu seras là, on fera nos co-hosts.
Oh, ça serait tellement fun!
On met ça dans l'univers.
Absolument. Manifesting.
Oui, c'est ça.
Mais c'est drôle parce que ce que tu dis, admettons, moi, ben, comme je t'ai dit, tantôt, j'ai plus d'emploi depuis le mois de juillet. Puis quand c'est arrivé, je l'ai raconté dans l'épisode avec Kim, mais j'étais dévastée. J'étais comme, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer? Mais ça faisait tellement longtemps que je mettais le vœu de coacher des gens plus en développement personnel.
Ouais.
Puis on parlait de confiance en soi, puis justement, moi, ça m'a tellement changée en tant que personne.
Ouais.
Donc, je me suis dit que c'était comme l'univers qui me disait d'aller vers ma voie puis de commencer puis de me lancer à 100% de faire le coaching. Puis justement, par le podcast, moi, ce que j'aime, ma formule, c'est que je fais des entrevues avec des femmes inspirantes. Mm-hmm. Puis comme tu as pu le remarquer, on aborde plusieurs sujets qui vont du féminisme à la confiance en soi, le syndrome de l'imposteur. Puis dans mes solo épisodes, moi, ce que je fais, c'est plus parler du syndrome de l'imposteur en soi, la confiance en soi. Donc, il y a plusieurs choses qui s'en viennent par rapport à ça. Mais, tu sais, on a pas mal d'émissions similaires. Puis
oui, définitivement.
Dans nos podcasts, je veux dire, ça se ressemble beaucoup. Ouais. Toi, c'est la version anglophone.
Oui, exactement. De ce que je fais. US and Canadian base. Mais ouais, définitivement. Puis, honnêtement, j'ai eu. Elle s'appelle Eliana Goldstein. C'est un millennial coach. Qui pousse les gens à soit changer de job ou faire un pivot de carrière ou quoi que ce soit, fait que ça t'intéresse. Elle en parle beaucoup aussi, surtout de l'estime. Puis elle parle pas juste nécessairement juste des femmes, mais c'était quand même intéressant d'avoir cette conversation-là avec elle.
Ben c'est sûr. Puis en tant que telle, tu sais, moi, c'est quand je parle avec des femmes qui ont tellement confiance en elles-mêmes. Puis comme on le disait un peu plus tôt, justement, dans la société, j'ai l'impression qu'en tant que femme, on est tellement mindés à se comparer chacune les unes les autres. Puis que si l'une est meilleure que nous, ben, meilleure entre guillemets, là, parce qu'en tant que telle, on est toutes bonnes à notre manière. Ouais. Mais lorsque une femme est perçue comme étant meilleure que nous, ça devient comme un threat plutôt qu'être comme une motivation, mais ça devrait pas être le cas.
Jamais, non. Puis je pense que ça va changer à travers les années. Mais tu sais, je pense que ça revient encore, là, c'est de l'anthropologie, là, mais comme que les femmes devaient comme trouver le Cro-Magnon, tu sais, comme le...
Oui, ben oui, pour survivre, tu sais.
Oui, exactement, je pense que ça part de là, mais non, et un autre quote, mais tu sais, « Comparison is the death of joy », tu sais, c'est comme, c'est vraiment d'être comparé constamment, c'est la pire chose que quelqu'un peut faire, puis je pense que c'est de reste dans ta voie, là, stay in your lane, puis... Quelqu'un a du succès, ça t'empêche pas de... Ça t'enlève rien.
C'est comme, ben, c'est
ça. If anything, ça devrait juste te motiver à en faire plus. Puis c'est ça. C'est un abundant mindset versus...
Exactement. Lack mindset.
Oui, c'est ça.
Mais c'est ça, tu dis que de pas se comparer. Puis il y avait une entrevue que j'ai faite avec Roland Balma qui était dans ma saison 1. Mm-hmm. Puis on parlait de la comparaison. Puis justement, ce qu'on se disait, c'est que la seule personne avec qui tu devrais te comparer...
C'est toi-même.
C'est exactement. La personne que t'étais hier puis la personne que tu vas être demain.
Définitivement, ouais.
Les autres, on s'en fout.
Ouais.
Genre, ils ont pas rapport dans ton histoire.
Ouais.
C'est soit une inspiration ou soit « you just don't care ».
Yeah, and il y a aussi le fait qu'on sait jamais non plus de se comparer à soit une autre femme ou une autre personne, point.
Mm-hmm.
Tu sais pas non plus toutes les hurdles puis tous les défis qu'ils ont dû... j'ai comme tous mes mots en anglais, là, mais...
C'est correct. On est bilingue.
Non, mais les défis qu'ils ont dû surmonter.
Oui.
À travers les années pour atteindre leur objectif. Quand tu te compares, ben, tu le sais pas non plus, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle vit ou qu'est-ce qu'elle a vécu pour atteindre cet objectif-là, etc. Fait que des fois, c'est comme, tu focus on you. Là.
Ben, c'est ça. Puis tu vois juste, comme on dit, c'est ça, tu vois juste la pointe du iceberg de la personne. Puis j'ai l'impression, surtout dans ma génération, tu sais, on voit beaucoup de TikTok, d'Instagram, de gens qui atteignent le succès en overnight, comme on dit.
Ouais, puis ça prend 10 ans.
Ben, c'est ça. Puis surtout, tu sais, ce qui pogne, c'est du contenu comme « Voici comment devenir millionnaire en 5 jours ». Mais ensuite, t'es comme « OK, c'est le fun, mais how? »
Ouais, and what do I have to sacrifice
exactement.
To get that? Ouais.
Puis, tu sais, je veux dire, comme il y a des succès overnight qui arrivent, mais c'est surtout de la chance.
Oui, oui, puis les TikTok stars, c'est comme ça va faire son
éphémère.
Temps.
C'est éphémère.
Oui, c'est ça.
Exactement. Puis surtout, moi, ce que je pense tout le temps, c'est « Mettons, tu regardes un film, OK, dans la vie. » Au cinéma, ce serait vraiment, vraiment un film plate si tu passais de l'introduction du film à tout de suite la fin qui est vraiment successful,
oui.
Ou qui a du succès.
Ouais, c'est vrai.
Un film, ce qui est intéressant, c'est quand tu vois toutes les struggles de la personne,
les montagnes
qui a surmonté, tous les défis qu'il a passé au travers pour atteindre le point final qui est le succès, admettons.
Ouais, définitivement.
Donc, il faut apprendre à aussi enjoy les défis, même si c'est difficile, puis il faut bûcher des fois, comme tu dis.
Ouais.
Mais au final, ça en vaut la peine. Puis plus on continue, plus on se donne, puis plus on croit en soi-même, plus ça va arriver, j'ai l'impression... Un jour. C'est sûr, ça va arriver, en fait.
Oui, c'est
faut
ça.
Juste que tu continues.
Faut juste que tu continues. Puis après, je veux aussi spécifier que je suis pas non plus pour le burn-out, là.
Non,
parce
c'est
que...
ça. Il y a une thin line.
Puis je dois avouer que moi, à travers les années, il y a quand même eu des moments où est-ce que j'ai presque frappé un mur, dans le sens où je travaillais vraiment trop, tu sais, je veux dire...
Le 70 heures.
C'est ça. Bien, le 70 heures, après, il s'est estompé, mais je me souviens, quand je suis devenue directrice, il y a à peu près, je sais pas, là, 6 ans... Puis là, je travaillais, puis là, je voyageais beaucoup. Puis là, c'était comme, tu c'est vois plus ta famille, tu vois plus tes amis. T'sais, comme, là, t'es comme, pourquoi je fais ça? Tu sais, c'est comme, ça me donne quoi? Mm-hmm. Fait qu'il faut juste te ramener de comme les raisons pour lesquelles tu fais ça, puis qu'est-ce que ça t'apporte. Puis si c'est périodique, c'est correct, mais il faut pas que, non plus ouais. que ça devienne ton lifestyle. Mais c'est juste comme le clarifier pour
c'est
pas
c'est important d'en parler.
Ouais.
Parce qu'on est dans une société qu'on priorise beaucoup, beaucoup la productivité, le ouais. travail constant. Le grind, comme ouais. on l'appelle sur les réseaux. Mais c'est malsain à un certain point parce que faut qu'il y ait une balance quelque c'est part. Il faut que ouais. tu saches prendre du temps pour toi,
ouais.
comme il faut que tu saches travailler. Parce qu'il n'y a rien qui arrive tout seul, naturellement.
Non, exactement.
Si
c'est
tu fais
point,
juste
là.
Chiller,
ouais, ouais,
naturellement,
non,
you're never gonna make it. Ouais, ouais. Mais il ne faut pas tomber non plus dans le overload.
Ouais.
Puis travailler jusqu'à se rendre au burn-out, comme tu en parlais.
Ouais. Ouais, ouais. Puis je pense que c'est une question de résilience.
Mm-hmm.
Puis de jamais lâcher, si c'est un rêve ou... Je prends l'exemple de... J'avais écouté, je pense que c'était un masterclass de Oprah.
Est-ce que tu es sur masterclass, l'application? Ou c'est un masterclass?
Oui, j'ai une masterclass de l'application, mais là, ça, okay. c'était un masterclass de Oprah. Puis c'était, je pense, Tyler Perry,
okay.
qui a comme une grosse business de production de films afro-américaine, okay. puis vraiment huge. Puis lui, il disait pendant 8 ans, il faisait la même pièce de théâtre, puis c'était tout le temps les mêmes 8 personnes
okay.
qui étaient à cette pièce de théâtre-là. Puis éventuellement, il y a eu comme un... Je pense que c'était un special guest qui est venu, puis là, c'est comme là, tout d'un coup, sa carrière, elle a comme vraiment pris une ascension, etc. Mais tout ça pour dire que pendant 8 ans, elle était motivée, là. Tu sais, t'es motivée de continuer à juste... parler à genre ces 10 personnes-là qui viennent te voir à chaque soir. Puis aujourd'hui, Tyler Perry, je pense qu'il vaut genre 350 millions.
Quelques millions.
Oh, oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme... Fait que c'est juste... Puis après, c'est pas juste une question d'argent, là, mais je veux dire, il a réussi avec son but ultime. Fait que c'est juste de dire que oui, il y a une résilience puis il y a comme un sustainability ou sustain the journey. Là.
Exactement. Puis c'est comme... C'est tellement drôle parce que toutes mes entrevues, c'est comme un cercle qui continue ensemble. Mais on parlait justement avec Kim du fait que plus tu continues, puis il y a un mime qu'on avait déjà vu, c'est comme quelqu'un qui bûche dans une grotte.
Ouais.
T'as comme, tu vois l'or ouais. qui est juste à la fin, puis il manque comme un petit mur
ouais.
pour qu'il l'atteigne. Et certains ont laissé tomber, puis l'autre continue à bûcher, puis à un moment donné, tu tombes sur l'or.
C'est exactement
mais ceux
ça.
Qui ont laissé tomber trop tôt, ben tu le sais pas, mais t'étais peut-être à un pouce de l'avoir, tu sais.
Puis Kim, je veux dire, pour les l'auditoire, Kim était aussi sur mon podcast.
Ah,
oui,
c'est
oui,
beaucoup
je l'ai trop! Je pense qu'il y a comme 3-4 épisodes, puis quand qu'elle parle, puis justement qu'elle t'en a parlé, mais... Quand elle a auditionné pour Beyoncé, 6 fois. Tu sais, c'est comme...
C'est pendant 6 ans et demi, je pense.
Elle était willing, là. Ouais. C'est comme... Mais c'est ça qui est beau. Puis moi, c'était ça, quand j'avais écouté son histoire, j'étais juste comme, yes! Like,
j'avais
this is what it is.
Moi.
Moi aussi, tu sais, c'était comme... Tu vas jusqu'à New York, t'es comme... T'es froid, t'attends au bout de... Tu sais, comme ouais. au coin de la rue pendant je sais pas combien d'heures, puis là, tu rentres... Anyway, c'était super, c'était ouais. super inspirant.
Ben, c'est ça. Puis en fait, c'était que... Moi, le but qui m'a donné des frissons, c'est qu'au départ, elle avait fait le Super Bowl avec Beyoncé.
Ouais.
Puis il choisissait les danseuses qui allaient faire le cut pour la tournée ouais. mondiale. Sa gestionnaire l'appelle, elle dit « Ah, malheureusement, comme tu n'as pas été prise. » Puis quelques heures après, elle la rappelle, puis elle comme « Il y a eu un changement dans la liste, tu as eu la place.
Ouais. »
Je peux même pas imaginer la
le
satisfaction.
Up and down
de... Le up and down émotionnel que tu as dû
oh
faire.
My God.
Mais non, c'est ça, genre, c'est le genre d'histoire que je trouve extrêmement inspirante.
Moi
puis
aussi.
Toi aussi, tu sais, justement, t'as bûché.
Ouais.
Puis toutes les femmes que j'interview, littéralement, ils m'inspirent à juste donner le meilleur de moi-même,
ouais.
puis continuer.
Ouais.
Puis de pas lâcher,
oui,
c'est
important.
Vraiment ça l'important.
Ouais. C'est important, puis de pas être influencé par les opinions des autres, parce que
oh,
tu vas tout le temps avoir une Debbie Downer qui va venir te voir, oh, mais... Ouais, mais tu sais, t'as pas le budget pour ou ah, t'as-tu pensé à ça? C'est comme non. C'est comme je veux pas mm-hmm. que tu m'en parles. Je pense à la fondatrice de Spanx, tu sais, les
Sarah Blakely,
mm-hmm. ouais, qui disait que je pense pendant les 3 premières années de son entreprise, elle a pas partagé l'idée avec. Genre, je pense qu'elle l'a partagé avec 2 personnes
exact.
Parce qu'elle voulait pas être influencée, elle voulait pas que leur perspective comme ait un impact négatif sur sa vision de la chose. Fait que, puis je suis entièrement d'accord. Là. Il y a des idées, des fois, que c'est mieux de le garder pour toi-même. Puis une fois que c'est comme tout prêt, packagé, ben là, tu peux le présenter aux autres.
Hein. Exact. Ben, moi, c'est la même chose pour mon podcast.
Ouais.
Parce que justement, des fois, le fait de le dire aux autres, c'est un couteau à double tranchant, j'ai l'impression. Parce
ouais.
que autant ça te motive, autant ensuite ça vient te mettre de la pression.
Définitivement.
Parce qu'ensuite, les autres vont être comme, oh, non, mais comme ça, moi, j'aurais fait différemment, mais c'est pas ce que j'ai besoin.
Ouais, c'est ça.
Moi, je veux juste te dire que je fais ce projet-là.
Moi, je veux que tu m'encourages.
Exactement. J'ai pas... Je fais ce que j'ai envie de faire. Je veux juste que tu m'encourages là.
Ouais.
pour ça que le podcast, j'ai attendu un petit bout avant d'en parler. Mm-hmm. J'ai attendu que tout était seté, mes entrevues et tout ça, puis que j'avais mon branding, mon logo, avant d'en parler au monde.
Mais oui.
Puis, parce que je voulais pas mettre trop de high expectations non plus de la part des gens. Puis juste une fois que c'était lancé, y aller à 100%.
Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord. Puis tu vas toujours avoir des petits haters là, qui vont donner des commentaires poches, mm-hmm. puis t'es juste comme... Oui. Toi, qu'est-ce que tu fais? Là?
Ben, c'est ça. C'est... non, mais honnêtement, 100%. Puis je veux dire que j'ai déjà entendu aussi du fait que si t'as des haters, mm-hmm. ou des, je sais pas comment dire ça en français.
Ouais, moi non plus, mais je trouve que le mot haters est comme le bon mot. Si t'as des quoi?
Des gens qui te détestent?
Non, je sais pas si c'est ça, mais c'est ça. Pour moi, le mot haters, c'est plus t'es tellement pas bien dans ta peau que tu dois.
Bring someone else down.
Ouais. Pour moi, c'est ça, c'est comme...
Rabaisser quelqu'un.
Ouais, rabaisser, c'est des rabaisseurs, non?
Des rabais... Ah, ouais!
Je sais pas, mais ouais.
Faudrait chercher le terme,
ouais,
exact.
C'est ça.
Mais je comprends ce que tu veux dire, puis en tant que tel, toi, est-ce que t'as déjà eu des haters sur ton podcast?
Ah oui, toujours, oui. Ben, pas nécessairement sur le podcast. Moi, je dis des fois, no answer is an answer, mm-hmm. or no comment is a comment. Tu sais, c'est comme de pas avoir de feedback ou pas juste sur le podcast, c'est
en général
des grandes idées que j'aimais partager ou des campagnes ou des choses qu'on a gagnées ou quoi que ce soit. Tu as tout le temps à avoir du monde qui se sentent pas bien dans leur peau puis qui veulent te faire sentir petite, mais dans le bout de ligne, ça reflète vraiment plus leur personnalité puis leur problème que la tienne. Ouais. C'est comme...
Ça en dit beaucoup plus sur eux-mêmes que toi, en fait.
Exactement, c'est ça. Mm.
C'est sûr, ça fait mal sur le coup.
Ouais.
Puis t'es comme, ah, mais tu sais... Parce que moi, en tant que j'ai souffert de people-pleasing comme beaucoup de personnes. Puis tu sais, des fois, quand j'ai des commentaires négatifs, je le prends un peu sur moi-même, je le prends personnel, mais ensuite, je suis comme... Ce que je fais, des fois, c'est pas ma personne non plus.
Ouais, c'est ça.
Puis il faut que j'apprenne à me détacher aussi de mes projets. Ouais. Puis oui, c'est une partie de moi, mais c'est pas moi-même en tant que telle. Puis les gens qui vont venir te juger te connaissent pas réellement anyway.
Ouais. Puis moi, je dis à la place de... Tu sais, instead of complaining, you should contribute. Fait que c'est comme comment tu peux contribuer versus te plaindre ou me donner ton mauvais feedback. Sauf si c'est quelqu'un que c'est du feedback constructif. Oui. Puis là, t'es comme, oh, génial, j'avais pas pensé à ça, etc. Mais de juste te donner... tu me donnes ta perspective... qui est négative puis qui a contribué à rien. Dans le fond, garde-la pour toi-même ou écris-la dans ton téléphone.
Ça t'amène quoi dans la vie?
Non, c'est ça. Mais il y a plus de gens comme ça qu'à l'inverse. C'est ça qu'il faut accepter aussi.
Ouais, mais ça, je trouve ça tough à accepter. Ouais, le fait que comme... Puis je comprends pas.
Mais c'est de call out the noise puis c'est de couper des amis ou des personnes toxiques.
Mm-hmm.
Tu le sens. Puis on a toute une intuition. Que quand la personne n'est pas là pour les bonnes raisons, on le voit assez vite. Là.
Ouais, ben ça, je l'ai appris moi étant vraiment plus jeune parce que depuis ce temps-là, j'ai fait un tri de mes amis.
C'est ça.
Je sais que les relations que j'ai en ce moment sont vraiment, vraiment importantes. Puis comme on en parlait tantôt aussi, les 5 personnes avec qui tu te tiens le plus sont la moyenne de la personne que t'es.
Exactement.
Donc, choose them wisely.
Ouais, vraiment, choose them really wisely parce que ça change une vie.
Mm-hmm.
Il y a des gens, puis on rencontre des gens que tu dis... Tu sais, la minute qu'ils ont pris la mauvaise décision, ça allait complètement changer toute leur vie. Puis cette mauvaise décision était influencée par leur cercle d'amis ou leur cercle familial ou quoi que ce soit. Puis c'est dommage aussi, mais...
C'est la vie.
C'est ça. Ouais.
Puis, tu sais, je veux dire, j'imagine que dans ton parcours aussi, des fois, est-ce que tu as eu à... Pas laisser tomber, c'est pas le bon mot, mais laisser derrière toi peut-être des personnes qui t'aidaient pas nécessairement, mais avec qui tu étais vraiment proche avant?
Définitivement. Et puis, il y a même eu des gens qui m'inspiraient. Fait que c'est ça qui était tricky. C'était des gens qui pouvaient m'inspirer au quotidien, mais qui avaient une énergie négative ou de jalousie ou de, tu sais, qui étaient toxiques ou quoi que ce soit. En bout de ligne, j'ai réalisé qu'ils voulaient pas tant mon bien, mais il y avait un autre côté qui était comme, ah, oh, mais c'est tellement inspirant d'être avec cette personne-là, elle peut tellement m'amener plus loin, puis tout ça, mais dans le fin fond, elle n'a pas mes meilleures intentions à cœur, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est dommage, mais après, c'est de faire le tri, puis à travers les années, puis... Après, des fois aussi, t'as juste des connaissances, puis c'est correct aussi, puis c'est pas obligé... Tout le monde n'est pas obligé d'être ton meilleur ami non plus. Là.
Non, c'est sûr. Puis suis son instinct, en fait.
Oui, exactement.
Toi, est-ce que tu dirais que t'es plus guidée par ton instinct ou ta logique en tant que telle?
Instinct.
Ouais.
Ouais, je suis instinct, tu sais, tout ce qui est soft skills.
Intelligence émotionnelle.
Oui, vraiment. Le non-verbal, pour moi, c'est plus que le verbal. Ouais. C'est fou. Puis, mais en même temps.
Ben, c'est ça. Ouais. Mais moi, ce qui m'a fascinée, en fait, c'est que dans mes meilleurs amis, je sais pas si tu es un peu les types de personnalité. Moi, je suis ENFP. Okay. Donc, très, très expressive, très, très émotionnelle. Je suis quand même assez spontanée. Et j'ai deux amis qui sont INTJ.
OK.
Puis ces filles-là, en fait, ce qui est hilarant, c'est qu'ils me parlent justement de lire le non-verbal des gens, comprendre les émotions, puis se mettre à la place de l'autre, mais ils sont pas capables. Ils ont de la difficulté à faire ça. Puis c'est des personnes incroyables. Je veux dire, ils ont tout l'amour du monde, puis ils ont leur charme.
Ouais.
Mais ce que je trouve hilarant, c'est que pour moi, c'est tellement facile de lire l'autre personne qui est devant moi. Ouais. Puis je suis comme, comment est-ce que tu fais pour pas le lire? Puis elles sont comme, mais comment toi, est-ce que tu fais pour comprendre les autres personnes, tu sais?
Mais des fois aussi, c'est d'accepter, puis ça, c'est une de mes bonnes amies qui m'a dit ça récemment, mais d'accepter aussi que les gens ne sont pas tout le temps au même niveau de conscience que tu l'es.
Puis comme... eux, ils ont un différent type de conscience que
exactement.
Moi.
Exactement. Puis c'est d'être correct avec ça, mais moi, je veux dire, c'est quelque chose que je travaille continuellement, d'être capable d'accepter ça, que les gens sont pas au même niveau de conscience, puis dans toutes les facettes, que ce soit au bureau, que ce soit dans ma vie personnelle.
C'est ça.
C'est tough.
Ouais. Mais j'ai l'impression que tant que tu es complémentaire avec l'autre personne...
Définitivement.
Comme par exemple, moi, je sais qu'avec elle... Chaque fois qu'on sort ensemble, on se complète parce que comme moi, je leur explique genre, mon point de vue. Puis après, eux, ils me ramènent à l'ordre, admettons peut-être un peu plus du côté logique. Mm-hmm. Fait que ça rebalance. Mais il y a certaines personnes avec qui, tu sais, je vais jamais m'entendre.
C'est ça, puis c'est correct.
C'est ça, exactement. Puis ça fait un tri. Ouais. Tu peux pas être aimé par tout le monde. Tandis que toi, moi, c'est ça que j'ai appris dans les dernières années, ben, dans les deux dernières années, je dirais. C'est que pourquoi est-ce que tu veux que tout le monde t'aime alors que toi-même, t'apprécies pas tout le monde?
Ouais, c'est ça.
Tu sais, genre, ça, c'est juste être égoïste, puis. Ouais. C'est ton ego qui parle au lieu de juste faire comme...
I'm fine, là.
Exact.
On peut être là, on peut être ici juste avec trois personnes, puis je suis bien heureuse, puis oui, c'est ça. Quality over quantity. T'sais.
Exact.
Ouais, vraiment.
Puis écoute, l'entrevue touche à sa fin parce que je regarde le temps, puis honnêtement, ça a passé tellement vite. J'ai adoré
cette entrevue.
C'est super,
oui, c'est vraiment cool. On est twinning avec nos white jackets.
Puis on s'est pas appelé, swear to God. On s'est juste rencontrés dans le stationnement. on a socialisé comme ça et on a découvert qu'on était habillés pareil.
Oui, exactement.
Mais la question finale que je pose à toutes mes invitées, en fait, c'est toi, qu'est-ce qui te rend fière d'être femme?
Ben, j'ai adoré cette question. Moi, qu'est-ce qui me rend fière, c'est notre résilience, notre force. Tu sais, à travers les années, je pense que notre corps change, nos façons de penser aussi évoluent. Puis c'est aussi, on a tellement une énorme charge de travail ou, tu sais, en général, les femmes, je veux dire, c'est comme, il y a plein de choses qui peuvent se passer, puis... On peut foncer, puis briser des plafonds de verre, puis tout faire ça seamlessly, ou tu sais, qui est comme un... Dans le fond, ça a l'air comme si c'était sans effort, mais dans le fin fond, ça ne l'était pas. Puis je trouve que les femmes, c'est comme si ça, c'est une force, une résilience énorme. Fait que ça me rend ultra fière d'être femme, puis de passer à travers tous ces beaux moments et ces moins beaux moments à travers les années.
Ouais. Puis avec classe, c'est
avec
éthique.
Classe, c'est définitivement, oui, c'est comme... C'est pour ça que je trouve ça intéressant de se parler, puis de parler à plein de femmes qui ont vécu plein de choses, puis tu réalises juste... Man, like...
On se ressemble, mais on est tellement différentes en
même
temps.
Oui, oui. Mais on brise des... Je veux dire, juste de voir l'évolution de la femme à travers les années, c'est juste super inspirant. Fait que non, je suis ultra fière d'être femme puis de continuer à essayer d'inspirer les autres ou de me faire inspirer vice-versa.
Ben, en tout cas, je te garantis que t'es une femme extrêmement inspirante.
Ah,
j'ai adoré ma conversation avec toi, Julie.
Moi aussi,
c'était comme une conversation de comme... Oui. J'ai l'impression que je te connais depuis vraiment longtemps, tandis qu'on vient juste de se rencontrer.
Vraiment.
Mais
les soul sisters.
Exactement. En plus, on a dû le savoir dès qu'on était habillés pareil.
Exactement.
Mais merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Ben,
écoute, c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Puis j'espère qu'on va se reparler bientôt, potentiellement.
Définitivement. Merci. Merci à toi. C'était vraiment génial.
Donc, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à laisser une note sur ta plateforme d'écoute et de t'abonner pour ne manquer aucun épisode. Comme toujours, merci pour ton écoute, puis on se retrouve la semaine prochaine.